Y a pas. Ouais, bon, on y va. Sylvain, on y va.
Allô? Ah? Non, il n'y a rien.
Voilà, 1, 2. En fait, je sais pas, j'ai là, et je sais pas. Je l'ai testé avant.
Voilà, bonjour à vous tous.
C'est lequel ?
Vous tous qui êtes rassemblés ici, à vous qui nous suivez à distance.
Ah, tu sais quoi ? Attends, ça va venir.
C'est le Seigneur qui nous accueille. C'est pas moi, c'est pas l'Église, c'est le Seigneur qui nous accueille dans sa présence ce matin. J'aimerais lire. Tu veux que je prenne ça ? Allô ? Oui ? J'aimerais lire un extrait du psaume 1. Heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce qu'il fait réussit. Le Seigneur connaît la conduite des justes, mais la conduite des méchants les mène au désastre. Oui, j'ai un ami que j'assiste en ce moment et puis qui a eu des galères dans sa vie parce qu'il a eu beaucoup de mauvaises influences, plus des problèmes probablement dans sa famille, dans son enfance, etc. Mais tout ce qu'il fait réussit. Je ne sais pas comment vous le prenez. La vie n'est peut-être pas si simple. J'étais vendredi après-midi au service d'adieu de ma belle-sœur, décédée après 3 ans d'un cancer du pancréas. Un magnifique service, mais après, c'est le vide, surtout pour mon frère. Et je suis affecté plus que je ne pensais. Puis d'autres personnes dans notre communauté ont aussi été affectées par des deuils ou par d'autres types de galères. Alors je laisse la question ouverte sur cette lecture directe de ce psaume. Et je vous propose de prier. Seigneur, nous sommes rassemblés dans ta présence. Tu nous accueilles tels que nous sommes, avec nos qualités et avec nos fragilités, avec nos joies et avec nos douleurs. Fais-nous sentir ta présence ce matin, en tout particulier pour ceux qui sont dans la peine. Et ouvre nos cœurs à ta parole qui nous réconforte et qui nous interpelle. Amen. Alors oui, nous sommes là à la fois pour louer le Seigneur, lui dire merci, et pour nous imprégner de son enseignement. Comme dit le psaume, celui qui médite cet enseignement jour et nuit. Et avant notre temps de louange, nous allons nous envoler pour quelques minutes jusque quelque part en Afrique. Grâce à la présence de Manon Muller, que j'invite à nous rejoindre. Alors, si mes souvenirs sont bons, Manon, tu as vécu un peu toute ton enfance et une partie de ta jeunesse, le groupe de jeunes, dans l'église évangélique de Mérin, alors que ta famille habitait Prévesin.
Ah, les Français.
Voilà. Et puis, vers mi-2021, si mes renseignements sont bons, tu es parti pour une année de service au Tchad. C'est bien ça.
C'est ça.
Et puis, apparemment, tu es toujours là-bas.
C'est une grande année.
Une grande année, voilà. Alors, je te passe le micro.
Okay. Bonjour. Vous avez les salutations de mes parents, d'ailleurs, pour ceux qui les connaissent. Ah, effectivement, c'est une grande année qui a duré 3 ans où je travaille au Tchad. Je viens devant vous avec ma tenue de travail, très confortable. Je me permets de décaler ça parce que j'aimerais parler un peu plus aux enfants, les plus petits mais les plus grands aussi. Alors je vous présente ma mission, ça s'appelle AMIP, c'est le logo que vous voyez derrière. On peut passer à la suivante. En fait, l'objectif de la mission, c'est vraiment d'être le reflet de Jésus, de Dieu, à autour de tous ceux qui nous entourent, qu'on soit dans n'importe quel pays, et de leur parler et de leur rendre service avec du médical, avec des projets sociaux, et en travaillant main dans la main avec les églises. C'est ça notre objectif. On peut passer. Donc il y a plusieurs ministères, 3, un au Togo, 2 au Tchad, 1 à Abéché, et on peut passer. Le suivant, c'est à Djamena, à la capitale, où je travaille. Et ça s'appelle ministère reflet d'espérance, parce qu'on veut refléter qui est Jésus, qui est Dieu, comment Dieu aime les enfants qui vivent, qui dorment dans la rue, qui n'ont pas de famille. Vous avez une famille, vous ? Vous dormez à la maison ? Ça, c'est une sacrée chance. Donc ça, c'est mes enfants. Une partie. On peut passer. Pour ceux qui ne savent pas où c'est le Tchad, les petits comme les grands, parce que je suppose qu'il y en a qui ne savent pas, j'ai mis une carte, c'est au milieu de l'Afrique. Et puis N'Djamena, c'est le petit carré jaune qui est à l'ouest du pays, juste en dessous du lac Tchad. C'est un peu désertique, il fait un peu plus chaud qu'ici. On peut passer. Ça, c'est vraiment l'équipe avec laquelle j'ai la chance de travailler. Il n'y a que des Tchadiens, que des gens qui savent vraiment la réalité du pays. Même moi, je suis un peu Tchadienne quand même maintenant. Et il y a un court terme qui est venu, il a réalisé une vidéo pour présenter le ministère. Alors au lieu que je papote beaucoup, 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 je vais vous laisser regarder la vidéo.
Je suis le frère Jeannot, responsable d'activité à Mossad. Je suis dans le projet depuis 14 ans et nous travaillons à Moursal dans une église évangélique, l'église Eden, donc l'église des nations de Moursal.
Je m'appelle Kramran Narabay et je travaille dans le projet Reflet d'Espérance depuis 2016 avec les enfants qui vivent dans la vie. Aujourd'hui, on a organisé le foot pour jouer un peu avec les enfants. On fait l'évangélisation par foot. Donc, nous voulons partager l'amour de Dieu et la parole de Dieu avec ces enfants qui vivent dans la rue. Et nous voulons aussi partager, les aider vraiment à sortir de la rue et les placer dans leur propre famille.
Moi, c'est Kevin. Je suis responsable de l'activité de Kabbalah. J'ai intégré le projet Reflet d'Espérance il y a de cela 6 ans.
La permanence consiste à mettre le savon en place, chercher un peu de l'eau dans la bassine. Nous avons aussi les tenues de rechange. Et après quoi, les enfants s'habillent en tenue que nous avons et lavent les vêtements qu'ils ont. Et après, nous jouons un peu avec eux sur la natte. Et après la natte, nous avons un temps de conversation aussi avec eux pour savoir qu'est-ce qui a poussé à ce qu'ils puissent être dans la rue.
Je suis Manon, je suis coordinatrice du projet ici, Reflet d'Espérance. Et ça, c'est Joe, parce qu'on est dans ma maison ici. Et les enfants peuvent venir à la maison pour plein de sujets différents. S'ils sont blessés, je vais pouvoir les soigner. S'ils ont envie de jouer ou de passer du temps ensemble, alors je suis là. S'ils ont envie aussi de prier pour des sujets, s'ils ont des difficultés, alors ça va être aussi l'endroit de pouvoir discuter en un à un. Et voilà, la porte est ouverte pour n'importe quelle chose. Ils savent que je suis là et qu'ils vont avoir de la place.
Ici, c'est là où je vis, dans la maison de vie. C'est une maison qui accueille les enfants de la rue, ceux qui décident vraiment de quitter la rue. Et ils vont passer un temps dans la maison de vie avant de répartir dans leur propre famille.
Je crois que pendant les activités, on organise un moment de louange et d'adoration avec les enfants. Et il y a un moment aussi que nous les apprenons l'alphabet. Voilà, il y en a qui ne connaissent pas lire, qui ne savent pas écrire, donc ça les permet vraiment de s'exprimer. Et il y a aussi une période où nous les enseignons vraiment l'évangile. Donc on raconte des histoires bibliques et les enfants arrivent vraiment à mémoriser et restituer.
Je suis arrivée depuis 3 ans. Pour travailler avec ses enfants. Vraiment, au début, je ne connais rien du tout. Mais quand j'arrive, on me dit que c'est des enfants qui sont terribles, qui ne sont pas bons, qui sont sales tout le temps. Mais vraiment, à force d'être là, j'ai vu que Dieu a travaillé dans mon cœur pour les voir comme mes enfants, presque, avec beaucoup d'amour pour quoi qu'ils fassent. Je peux pardonner, je peux être là avec eux, et je suis contente d'être ici. Et vraiment, Dieu, je ne sais pas, il m'a beaucoup formée depuis que je suis ici, à part que je suis venue ici pour développer ma foi et de vraiment prendre conscience de ce que Dieu veut comme relation avec moi, de pouvoir pardonner, de pouvoir aimer et d'être toujours en relation et de jamais couper ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris ici. crois que vous avez eu la chance d'entendre mon bel accent, que j'ai un peu perdu, je suis contente. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des bêtises? Les parents fermaient les yeux. Un peu, ouais. Moi aussi, c'est vrai. Et en fait, mes enfants, ils font des bêtises, peut-être un peu plus grandes que les vôtres, mais finalement, une bêtise, ça reste une bêtise. Et puis, est-ce que ça vous arrive des fois, vous savez que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien et vous n'osez pas trop le dire aux parents? Du coup, vous allez faire quelque chose de bien, genre vider le lave-vaisselle ou ranger un peu la chambre. Et puis comme ça, ça cache un peu l'erreur. Mais ça vous est déjà arrivé, ça? J'aime beaucoup votre honnêteté. Moi, je peux dire un grand oui. Et moi, je fais ça avec mes parents, puis je fais ça avec Dieu aussi. Des fois, je fais des bêtises, je sais très bien que lui, il n'aime pas. Mais après, je fais un truc chouette et je me dis, bon, allez, ça peut peut-être passer. Mais en fait, j'ai remarqué que Dieu, il ne nous en veut pas pour ça. Et lui, il est toujours comme ça. Ce qu'il veut, c'est pas qu'on pleure, qu'on se sente pas bien, mais il veut être avec nous. Il veut qu'on se jette dans ses bras, peu importe si on a fait une bêtise, peu importe si on est joyeux ou tout, il veut juste être en relation avec nous. Et ça, c'est ce que je vis avec mes jeunes. Ils peuvent faire des trucs, vous avez même pas idée. Je vais pas vous les raconter, ça donnerait de mauvaises idées. Mais c'est ça que je veux, que je sens avec eux. J'ai envie qu'ils soient toujours avec moi, et je leur en veux jamais. Ils m'énervent. Il m'agace des fois, je gueule des fois un peu, mais j'ai toujours envie qu'on soit là. S'il ne me parle plus, alors ça, c'est ce qui me fait le plus mal. Alors, je voulais vous parler d'un garçon, enfin d'un adulte, Abakar, vous le voyez sur la photo, il est grand. Mais quand la mission a commencé à prendre soin de lui, il y a 10 ans, il était encore un petit enfant comme vous. Et puis, il a fait des petites erreurs, et puis il a commencé à prendre ses distances. Mais nous, on était toujours là, oh. Et des petites erreurs, puis une grande, et il a fini en prison. Et là-bas, on a dit, non, c'est pas parce que t'es loin et en prison qu'on veut plus te parler. Nous, on veut continuer. Et puis Dieu, il est toujours comment? Il est toujours comme ça, il attend les bras ouverts qui tournent et qui viennent. Alors finalement, en prison, il s'est converti. Il a commencé une formation d'aumônier, c'est des gens qui viennent parler de Dieu dans des endroits un peu spéciaux. À l'hôpital, en prison. Lui-même, dans la prison, en tant que prisonnier, il a parlé aux autres prisonniers. Il est devenu responsable de sa cellule. Une cellule, ce n'est pas comme ici, hein, c'est 50 personnes minimum, les uns sur les autres. Et là-bas, ça a marché, il a fait un petit groupe. Et puis, à sa sortie de prison, bah, j'étais là, la chance. Et finalement, il a fini sa formation d'aumônier. Il est devenu évangélisateur dans les rues, avec les enfants qui vivent dans la rue. Et alors, son témoignage, il est carrément mieux que le nôtre, hein, si j'ose me permettre. Parce qu'il sait ce que ces jeunes ont vécu et il sait comment ils peuvent s'en sortir. Donc ça, ça nous touche vraiment. On peut passer à la suivante. Ça, c'est un verset qui prouve que Dieu, il attend toujours les bras ouverts. En effet, l'Éternel, votre Dieu, fait grâce et est rempli de compassion. Il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. Il est toujours là, en fait. Il attend juste que vous reveniez. Je ne sais pas où vous en êtes, mais... Voilà, alors je vais vous parler juste un peu de moi. Je suis de retour ici, enfin ici, en Europe pendant un an. Je vais faire une formation biblique de 6 mois à Grenoble qui s'appelle Défi. Et les quelques temps qui me restent, je vais passer à tourner dans les églises et à travailler un peu pour la mission, pour voir un peu l'arrière. Et puis je vais repartir au Tchad en 2025. Je ne sais pas encore pour combien de temps, ne me posez pas la question, je ne saurais pas vous répondre. Mais peut-être que pendant cette année, je vais avoir des idées un peu plus claires. Avant de terminer, je veux juste vous laisser des sujets de prière et des sujets de remerciement. Merci pour vos prières, vos pensées, vos messages, vos soutiens, vraiment. C'est grâce à vous qu'on peut tenir là-bas. Et les sujets de prière pour les jeunes qui ouvrent leur cœur et qui se jettent dans les bras de Dieu, ça c'est vraiment une grande prière. Pour Mamadzen et Bonheur, c'est deux enfants qui sont dans la maison de vie et qui ont décidé de sortir de la rue. Mais le chemin, il ne se fait pas tout seul. Et puis, ce n'est pas une fois qu'on est sorti que tout est terminé. Donc, il faut continuer de prier pour eux. En France, pour l'envoi de nouveaux missionnaires, des enfants, il y en a plein. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, je lance un appel. Il y a aussi une nouvelle équipe à N'Djamena, parce que bah, quand je suis partie, il y a une nouvelle équipe de responsables tchadiens. Donc, vous pouvez prier pour eux. Et vous pouvez prier pour moi aussi, pour les 6 mois de formation, et puis le reste aussi, d'être missionnaire à domicile, c'est un autre travail dans lequel il faut que j'apprenne aussi. Voilà, donc je vous laisse tout ça, et je vous laisse pour finir une photo de ma famille.
Seigneur, j'aimerais te dire merci pour cet amour que tu as mis dans le cœur de Manon pour le Tchad et pour ses enfants et pour les plus défavorisés. Merci pour ce témoignage de l'Évangile qui reflète vraiment l'espérance auprès de ceux qui sont les plus défavorisés ou qui ont eu le plus de galères. Et nous te prions pour la suite du ministère de Malon, pour ce service et cette formation en France, et ouvre les portes devant elle pour son avenir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Je voulais juste dire, j'ai mis des choses du Tchad un peu sur la table, vous pouvez vous servir et je serai à côté. Voilà.
Voilà, nous entrons dans un temps de louange avec...
Tu voulais faire descendre les enfants ?
Pardon ? Oui, j'ai oublié. Alors les enfants, vous pouvez rejoindre vos activités en bas. On va aussi prier pour vous et vos moniteurs. Hein. Seigneur, nous te remettons ces enfants pour qu'ils puissent découvrir la grandeur et la profondeur de ton amour. Nous te prions pour les personnes qui s'occupent d'eux en bas, pour ces ateliers de la Bible, et qu'ils soient bénis pendant cette journée. Amen.
Voilà, comme Sylvain l'a lu au début, le psaume dit ceci au verset 2. Heureux l'homme qui met toute sa joie dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Alors la loi, c'est la parole de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, c'est l'entier de l'Écriture. Et c'est elle qui nous révèle d'où nous venons. Nous avons été créés par Dieu. Elle nous révèle aussi pourquoi notre monde et nous-mêmes ne sommes pas toujours aussi prospères qu'un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Voilà, c'est parce que le péché a fait irruption dans ce monde. L'Écriture nous révèle aussi comment nous pouvons envisager le meilleur avenir qui soit, c'est-à-dire en devenant disciples de Jésus-Christ. Elle nous révèle notre destinée avec Dieu pour toujours si nous le suivons. Nous pouvons donc louer Dieu de nous avoir donné sa parole pour nous révéler tout cela. Et le premier chant que nous allons chanter rappelle l'œuvre de Jésus à la croix, de la croix jusqu'à son retour. Et nous pourrons ensuite nous rappeler que ses œuvres sont merveilleuses. Et enfin, nous pourrons nous engager à lui faire confiance.
À tout jamais. Parce que tu connais bien mon
cœur, Seigneur, pour que nous puissions recevoir ce que tu veux nous dire ce matin. Et inspire Philippe dans ce qu'il a à cœur de nous communiquer de ton enseignement. Amen.
Amen. Merci Sylvain. Bonjour à chacun, à chacune. Je suis très heureux de revoir André au milieu de nous ce matin. Sois la bienvenue. Ça fait vraiment chaud au cœur de te voir au milieu de nous. Très heureux aussi de voir François, Johan et Rosie qui est invisible. Elle dort, la bienheureuse. Profitez bien. Vous avez le droit de dormir pendant les 25 minutes qui viennent. Je ne jetterai pas de pierre. J'ai confiance en toi. Il est superbe ce chant, bien sûr. Je réalisais juste en chantant ces paroles que finalement, ce n'est pas des paroles qu'on dit à tout le monde, ça, non ? J'ai confiance en toi. Déjà parce que la confiance, ce n'est pas si évident à tisser dans la vie, la confiance. Elle peut être déçue, trahie. Bon, faut pas que je sorte trop de mes notes. Mais enfin, voilà, juste, je trouve ces mots-là très forts. En fait, c'est les mots d'un amoureux à son amoureuse, d'une amoureuse à son amoureux. C'est le mot de conjoint, hein. J'ai confiance en toi. Des fois, on ne le dit pas, mais on le fait remarquer. On s'est posé, on a confiance. C'est le mot de parents à leurs enfants, même si la confiance, il faut parfois la tisser, surtout à l'adolescence. C'est le mot de petits-enfants à leurs parents, quand ils se jettent dans leurs bras, j'ai confiance en toi. C'est le mot que se disent des amis, j'ai confiance en toi. Le dire de cette façon au Seigneur Dieu, c'est fort, moi, je trouve, de lui dire j'ai confiance en toi. Parce qu'on sait qu'il aura toujours les bras grands ouverts. J'ai confiance en toi. Alors, je vais juste vous lancer un petit défi. Si vous deviez citer, vous, quelque chose de l'enseignement de Jésus qui vous ferait dire j'ai confiance en toi, ou simplement quelque chose de l'enseignement de Jésus, vous commenceriez où ? Qu'est-ce que vous citeriez, vous, en premier, si vous pensez à l'enseignement de Jésus ? C'est un petit défi, hein, puis il faut que je vérifie une hypothèse. Donc, pardon ? La croix. Il en parle, hein, il n'en parle pas beaucoup, il le fait, mais il l'annonce. T'as raison, bien vu. Le chemin d'Emmaüs, donc là on est après la croix, waouh, super.
Je pense à l'amour des ennemis.
Waouh, l'amour des ennemis, aimer vos ennemis. Ça se situe dans quelle portion de la Bible ça, l'amour des ennemis ? Matthieu 6, waouh! Ah oui, mais tu cherches sur ton. Ah, Philippe. Matthieu 6, on est au cœur du sermon sur la montagne. La plus importante prédication de Jésus. Moi, j'ai noté dans mes notes personnelles les punchlines de Jésus, les lignes de force de Jésus, des phrases hyper ramassées. Qui tape là où il faut que ça tape. Aimez vos ennemis, par exemple. Le sermon sur la montagne, c'est un des aspects les plus importants de l'enseignement de Jésus, même s'il est souvent mal compris. Et je sais qu'il y a eu là, dans les gens qui m'ont précédé, je pense à Claude Bécher en particulier, un spécialiste du sermon de la montagne, donc je ne vais pas vous faire une Claude Bécher 2, mais j'aimerais nous emmener pour les semaines qui viennent à la découverte de ce sermon absolument magnifique, le sermon sur la montagne. Un sermon, des punchlines, une prédication de Jésus qui pose un problème parfois aux chrétiens. Aimez vos ennemis. Et pourtant, la première chose qu'on doit noter quand on prend le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, c'est que Jésus s'adresse à ses disciples. n'est pas un truc pour les autres, c'est un truc pour nous. Qui n'a jamais eu de difficulté en tombant sur ce passage où il est dit qu'il faut tendre l'autre joue? Déjà, se prendre un pain physiquement ou moralement, ce n'est pas simple, mais alors s'il faut en redemander. Et puis quand Jésus dit qu'il faut donner à celui qui demande, c'est aussi dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 42. Ça veut dire quoi? Il faut donner des allumettes à un jeune enfant? Il faut donner un billet de 100 francs à son frère aîné? Il faut donner aux Roms qui font la manche? On fait quoi avec ça? Et puis, ce qui me gêne un peu, je vais vous le dire franco, c'est que Jésus lui-même, qui a dit qu'il fallait donner à celui qui demande, Jésus lui-même ne donne pas toujours satisfaction à ceux qui lui demandent quelque chose. Hier, j'ai parlé avec une chère amie dont un des enfants vit une épreuve pas possible et qui, depuis des années, demande à Dieu de secourir cet enfant, de changer la donne, et ça ne vient pas. Jésus lui-même ne donne pas toujours quand on lui demande. Et par exemple, quand les pharisiens lui demandent de produire un signe miraculeux, ce dont il est légèrement cap, eh bien, il refuse catégoriquement. Vous ne l'aurez pas, les gars. Tenez-vous tranquille, vous n'aurez rien. Vous pouvez demander, vous n'aurez pas. Mais il a dit qu'il fallait donner à celui qui demande. On va où? Ou encore, toujours dans le sermon sur la montagne, et on étudiera ce texte à un moment donné, Jésus nous met en garde contre les paroles méprisantes. On sait qu'avec la langue, on peut faire tellement de mal. Et Jésus nous met en garde contre ça. Il va jusqu'à nous interdire d'appeler quelqu'un un imbécile. Je suis tellement désolé du nombre de fois où je ne respecte pas ce texte. Avec d'autres mots plus fleuris même. Donc, il nous dit qu'il ne faut pas appeler quelqu'un un imbécile, mais lui-même, il appelle les pharisiens une race de vipères, ce qui n'est pas beaucoup mieux, ou des tombeaux blanchis, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Autrement dit, on va trouver dans le sermon sur la montagne des choses qui sont relativement faciles à comprendre, la succession des mots, mais assez difficiles à mettre en pratique. L'état d'esprit. Ou des choses que Jésus manifestement n'a pas mis en pratique. Donc, il faut chercher à mieux comprendre. Et on va essayer de le faire pendant les semaines qui viennent. Le sermon sur la montagne, il existe en deux versions. Ce sont, comme dit, des punchlines, des formules frappantes. Et je pense que Jésus les a utilisées plus d'une fois dans ses 3 ans de ministère. Dans Luc, par exemple, nous avons une version beaucoup plus abrupte que celle de Matthieu. Une version quasiment provocatrice, très condensée. Je vous lis le passage, vous pouvez le suivre. Jésus regarda alors ses disciples et dit « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le règne de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. » Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous si certains vous haïssent, s'ils vous rejettent, s'ils vous insultent, s'ils disent du mal de vous à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous qui êtes riches, car vous avez déjà votre bonheur. Quel malheur pour vous qui avez tout en abondance maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans la tristesse et vous pleurerez. Quel malheur pour vous si tout le monde dit du bien de vous, car c'est ainsi que leurs ancêtres agissaient avec les faux prophètes. Comment est-ce qu'on peut déclarer heureux des pauvres, des affamés et des souffrants? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont heureux simplement parce qu'un peu plus tard, ou beaucoup plus tard, ils seront récompensés. Ce n'est pas là une justification de toutes les injustices. Un jour, vous serez heureux. Cassez-vous pas le dos à chercher mieux. Un jour, ça viendra, les gars. Patientez un peu. Je crois que Jésus, il est en train de faire ici ce qu'il a souvent fait dans des entretiens particuliers et devant les foules. Il dit les choses d'une manière très concrète, très matérielle, alors que le sens de son propos est profondément spirituel. Il dit par exemple à Nicodème, « Nicodème, mon gars, il faut que tu naisses de nouveau. » Mais il ne parle pas du tout de la naissance naturelle. Il n'est pas en train de lui dire « il faudrait que tu reviennes dans les entrailles de ta mère et qu'elle te donne à nouveau naissance. » Il ne lui dit pas ça. Il lui parle de la naissance de l'esprit, de la nouvelle naissance, de la conversion, de la vie avec Dieu. À un moment donné, Jésus, il dit à une foule qu'il faut manger sa chair et boire son sang. Mais ça, c'est une métaphore. Alors, c'est super osé. Nous, on n'oserait jamais faire ça. Mais c'est Jésus. C'est super osé pour dire qu'il faut croire en lui, qu'il faut se l'approprier, que Jésus, c'est quelque chose d'intérieur, que ça doit descendre profond. C'est ça qu'il veut dire. Mais qu'est-ce qui se passe quand Jésus parle de la sorte ? Ben, y a des gens qui partent sur une fausse piste, ils sont intrigués, ils cherchent à comprendre, comme Nicodème d'ailleurs, ou comme la femme samaritaine, ils sont intrigués, ils se disent « purée, il y a un truc là derrière, il faut qu'on comprenne ». Ou alors ils sont dégoûtés. Puis ils repartent en disant que Jésus est fou. Même une partie de ses disciples, en Jean 6, de ses disciples, pas des gars juste simplement qui viennent l'écouter de temps en temps, des disciples qui disent qu'il est fou et ils le quittent. Donc, Jésus, avec des propos très concrets, assez provocateurs, il fait le tri entre ceux qui sont venus en curieux, prêts à se moquer, prêts à voir se confirmer leurs préjugés, et ceux qui sont venus en véritables chercheurs d'authenticité, chercheurs de sens, des gens qui ont faim et soif. Vous venez pourquoi, vous, le dimanche matin ? Pourquoi vous nous écoutez derrière l'écran ? C'est quoi qui vous meut ? Pas le cri de la vache, le mouvement. Pourquoi vous mettez en route ? Pourquoi vous n'allez pas faire un brunch au beau rivage ? À la pêche à Divonne ? Pourquoi ? Vous avez faim et soif ? Vous avez envie d'un truc qui vous tient le ventre, qui mette du sens, de l'épaisseur. Si c'est ça, je vous promets que Jésus viendra remplir cette attente. Pas le pasteur, pas l'équipe louange, pas les coordinateurs, pas les superbes équipes techniques. Nous, on est juste des instruments. C'est tellement imparfait, à commencer par moi. Mais Jésus lui-même, il va venir remplir cette faim et cette soif. C'est dans l'évangile de Matthieu que nous avons donc un début d'explication aux propos assez provocateurs de Luc, ou de Jésus, sous la plume de Luc. Et je vous lis maintenant la version destinée à ceux et celles qui ne se laissent pas rebuter par une première impression. Quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui. Il prit la parole et leur donna cet enseignement. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif dans le monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute, quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. On pourrait presque pousser un ouf de soulagement, tant la version de Matthieu est un peu lissée. Des paroles qui sont un peu moins brutes de décoffrage. Et pourtant, quand on y regarde d'un petit peu plus près, notre soulagement va être de courte durée, parce que même dans leur version étendue, les béatitudes nous lancent un vrai défi. Quand je les lis, quand je les médite, depuis cet été en particulier, je réalise que je suis, moi, loin de vivre l'idéal que le Christ nous présente ici. J'ai tellement de domaines dans ma vie où je peux progresser. Alors, sans mettre des tonnes de culpabilité sur qui que ce soit, mais si j'écoute Jésus parce que je me pose en disciple de lui, je vais entendre ce qu'il a à me dire, à me redire. Heureux d'abord, comme dans les psaumes, comme dans Ésaïe. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme, la femme, dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux, heureuse, tous ceux, toutes celles qui se confient en lui. On sent bien ici qu'il ne s'agit pas de ce qu'on appelle la béatitude, ce bonheur béat qui vous envahit après le dessert du dimanche midi. Plus que 2 heures. Jésus ici proclame heureux, heureuses ceux et celles qui pleurent ou qui sont persécutés. On pourrait dire que c'est le bonheur de celles et ceux qui se trouvent du bon côté, du côté de Dieu, du côté de la vulnérabilité, pas de la force, de la vulnérabilité. Ces hommes, ces femmes, ils ont de la chance, sauf que ce n'est pas de la chance. Ils sont du côté de ce qui dure, de ce qui transcende l'existence, de ce qui est éternel, de ce qui fait du bien. Moi, les forts, j'en peux plus. J'ai aucune affection pour les forts. Que ce soit des politiques, des athlètes, des artistes. Ceux qui réussissent tout et qui écrasent tout, j'en peux plus. Il n'y en a pas un qui trouve grâce à mes yeux. Pas un. Des forts. On a besoin de faibles. On a besoin d'hommes et de femmes qui se montrent vulnérables, qui ont des brèches, qui laissent passer la lumière. Le paradoxe, c'est que cela peut inclure une certaine mesure de frustration, voire de souffrance dans le temps présent, d'être faible. L'apôtre Paul écrit ceci, « Nous mettons notre fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. » Que la persévérance produit le courage dans l'épreuve et que le courage produit l'espérance. Et cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. C'est paradoxal. Quand je suis faible, je suis fort. Si je suis vulnérable, l'amour de Dieu peut se déployer. Si je suis fort, si je dois rien à personne, si je peux faire le mal que je veux, alors j'essaie de m'en tirer tout seul et il n'y a pas de place pour Dieu. Heureux ceux qui sont humbles de cœur. Dans une autre version, heureux les pauvres en esprit. Précisons encore les choses comme le fait la Bible du Semeur. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. C'est une interprétation. Toujours est-il que la pauvreté matérielle, ce n'est pas un visa pour le royaume de Dieu. La pauvreté matérielle, elle peut vous rendre amer, elle peut faire de vous un grippe-sous, elle peut vous pousser à la violence, à la révolte contre Dieu. La porte d'entrée dans le royaume de Dieu, c'est quand on sait qu'on ne mérite pas grand-chose et qu'on peut se prévaloir d'aucun droit. C'est quand on se présente à Dieu les mains vides, dépendant et que l'on accepte de compter vraiment sur lui, uniquement sur lui, sur sa bonté, sur sa générosité, sur sa grâce. Je me sais pauvre, j'ai besoin de toi. La vie dans le royaume de Dieu, c'est quand on continue dans le même état d'esprit, sans orgueil, sans prétention, sans croire qu'on est devenu quelqu'un. Permettez-moi de l'illustrer avec un exemple d'il y a quelques semaines. Pour moi, c'est Munjiga Kambudji, l'athlète suissesse extraordinaire. Elle est tellement humble. Elle est si heureuse d'être en demi-finale du 200 mètres au JO. Mais en même temps, elle dit au monde entier qu'elle ne pourra pas aller plus loin cette fois. Pour moi, c'est ça, être heureux. C'est un juste regard sur soi. C'est une forme d'humilité qui sait jusqu'où on peut aller et là où il faut s'arrêter. Je crois qu'on peut réaliser de grandes choses et rester humble dans la vie. Jésus n'est jamais dans une logique de médiocrité, jamais. Il n'est pas non plus dans une logique de manque d'ambition. Il ne veut pas de disciples qui jouent petits bras et ventre mou. Il veut des disciples qui s'engagent, qui visent haut. Vous savez, à Mérin, on a quelques ambitions, on a des beaux projets. J'ai dit souvent au conseil qu'on court beaucoup de projets et qu'on vise haut, et je trouve ça formidable. Il y a de beaux projets qui vont se déployer cette saison. Mais encore une fois, c'est dans l'humilité que nous voulons construire l'église de Mérin. C'est dans l'humilité que, individuellement, nous voulons conduire notre vie. Nous pouvons avoir des ambitions élevées et rester humbles pourtant. Heureux ceux qui pleurent. Et qui pleurent à quel sujet ? Nous pourrions voir là quelque chose de très général, un peu dans la ligne de l'Ecclésiaste. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans celle où l'on festoie, car la maison de deuil nous rappelle quelle est la fin de tout homme. Et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. L'attention du sage se porte au lieu où l'on pleure un deuil. Celle de l'insensé se porte sur le lieu où l'on se livre à la joie. Ecclésiaste 7, 2 à 4. Heureux ceux qui pleurent. Alors on est d'accord, la vie, elle compte une dimension tragique, il ne faut pas l'oublier. Mais le même Ecclésiaste, le même, il invite les jeunes à profiter joyeusement de la vie. Il dit que nous devons nous réjouir, boire, manger, travailler, aimer en recevant ces choses comme un don de Dieu. Jésus s'est bien réjoui à table avec ses amis. Il n'a pas mené une vie austère, dénuée de joie et de plaisir. Heureux ceux qui pleurent. Ce n'est donc pas une prime générale accordée à la tristesse, même si la consolation que Dieu accorde dépasse la tristesse. Moi, je comprends cette béatitude en relation avec toutes les autres béatitudes. Ceux qui sont spirituellement pauvres peuvent parfois pleurer sur leur indignité, tout comme ceux qui ont faim et soif de justice peuvent pleurer sur l'injustice. Ceux qui témoignent de la bonté vont pleurer avec ceux qui pleurent. Ceux qui sont opprimés pour la justice, ceux qui sont persécutés, vont pleurer sur les injustices qui les frappent. Et ils ont raison de pleurer sur les injustices qui les frappent. On pleure sur le péché. On pleure sur toutes les manifestations destructrices du mal, en nous, en dehors de nous. Jésus pleure sur Jérusalem incrédule. Jésus pleure devant le tombeau de son meilleur ami Lazare. Alors je sais qu'une piété sombre et un poil dépressive a bien existé dans l'histoire de l'Église. Je sais que cette piété, elle est encore présente dans certaines traditions, y compris évangéliques. Mais vouloir toujours pleurer nous éloignerait du but que Jésus cherche ici. Un certain réalisme sur nous-mêmes. De la compassion pour un monde qui souffre. Une solidarité envers les injustices qui nous frappent ou frappent d'autres chrétiens. Dieu consolera. Dieu rétablira. Un jour, l'injustice sera redressée. Un jour, le péché ne sera plus. Un jour, Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Mais en attendant, regardons les choses en face, comme elles sont. Pas comme on rêve qu'elles soient, comme elles sont. J'ai devant moi des gens inquiets. Il reste encore 6 béatitudes. Tout le monde se réjouit du dessert ou de l'apéro. Donc je ne vais pas faire 20 minutes encore et on va s'arrêter là. On va reprendre dimanche prochain. Je pensais qu'on irait plus loin, mais ce n'est pas grave, je parle trop comme d'habitude. On va reprendre dimanche prochain avec les versets suivants, puis on verra jusqu'où on arrive. Mais je vous propose un exercice spirituel. Comment est-ce que vous pouvez faire résonner en vous ce que Jésus nous dit ici? Quelle place donner au bonheur malgré tout? Quelle place donner à la pauvreté en esprit? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que j'ai besoin d'aller au pied de Jésus pour entendre ce qu'il a à me dire, réentendre, me réapproprier certaines choses? Je propose juste d'identifier s'il y a l'une ou l'autre chose, l'une ou l'autre béatitude qui vous interpelle. Et puis je vous propose d'en faire un sujet de prière, juste quelques instants, prière perso. Je lis les deux premières qu'on a survolées. Heureux, heureuses, celles et ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux, heureuses, ceux et celles qui pleurent, car ils seront consolés. Juste quelques instants de prière.
L'évangile de Matthieu, il est construit comme un immense sandwich multicouche qui alterne des enseignements de Jésus et puis la mise en pratique, la manière dont l'attitude que Jésus avait avec les gens. Alors le serment sur la montagne qu'on a commencé à étudier aujourd'hui, c'est la première tranche d'enseignement. Mais au moment ultime, où Jésus va donner sa vie, c'est l'accomplissement ultime de cet enseignement, sur la non-violence, sur le pardon, sur l'amour qui va jusqu'à celui de l'ennemi. Et il partage le dernier repas avec ses disciples. Pendant le repas, Jésus prit du pain. Et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le règne de mon Père. Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête et ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Seigneur, merci pour ta vie donnée. Merci pour ton enseignement, pour ton interpellation, que ton enseignement nous pénètre, nous transforme, nous accueillons ton pardon. Et nous voulons apprendre à être aussi ceux qui savent pardonner. Amen.
Amen.
Nous allons passer dans les bancs avec les éléments de la Sainte Cène, le pain, il y a du vin et du jus de raisin dans les petits gobelets, jus de raisin au centre dans les godets un peu rosés, voilà. Et ceux qui souhaitent prendre le vin à la coupe, il suffit de lever la main et on vous la portera. Avoir 2 ou 3 personnes pour nous aider à la distribution. Terminons ce temps de Sainte-Seine par la prière que Jésus nous a apprise et qui se situe juste un tout petit peu plus loin dans le texte de Matthieu que nous avons lu ce matin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre notre offrande, qui est aussi une manière de louer Dieu pendant le chant qui suit. Et c'est, on rappelle que l'Église vit simplement des dons de chacun et que ces dons sont totalement libres.
Ce chant qui nous rappelle la victoire du Seigneur, que ton règne vienne, c'est que sa victoire soit là déjà dans nos vies maintenant, mais de manière définitive au dernier jour.
Quitter l'ordinateur de projection s'il y arrive pour nous annoncer, voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes dans la vie de l'Église qui se préparent, des belles choses.
Oui, merci, bonjour à tous et à toutes. La première chose, c'est que ce mardi à 20h, nous aurons un atelier biblique animé par Philippe Anchaud, avec pour thème la préparation au baptême et le baptême et les réunions d'église. Donc, ce n'est pas que pour les personnes qui désirent se préparer pour le baptême, hein, mais voilà, Comment est-ce qu'on vit ça comment est-ce qu'on vit ça en Église? Philippe va nous expliquer tout ça. Aussi vous dire que, ou vous rappeler que nous avons notre journée d'Église dans 2 semaines, et cette fois, nous avons un programme. Donc nous nous retrouverons à 11h, et pas à 9h, ou à 10h, pardon, attention. Donc ça sera de 11h à 15h30 qu'on aura notre journée. Si vous venez avant, c'est pas grave, vous pourrez aider à mettre en place les choses, on sera plus nombreux. Mais voilà, on a une équipe qui va se charger de ça. Et puis nous prévoyons d'avoir un brunch. Donc je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un brunch, il ne faut pas amener votre plat de lasagne. C'est pas le genre de choses qu'on mange au brunch, mais plutôt du pain, de la tresse, des croissants, la confiture, des œufs. Voilà, ce genre de choses. C'est une sorte de petit déjeuner géant et qui dure pendant plusieurs heures. Donc des fruits, voilà, si vous amenez des lasagnes, on va les manger, hein. Mais vous aurez compris, c'est pas un repas habituel. Et puis, l'après-midi, on vivra aussi ce qu'on a appelé des ateliers. Alors, c'est pas tout à fait des ateliers, mais toutes sortes d'activités. Il y en aura pour tous les âges. Voilà, venez comme vous êtes. Vous trouverez certainement un endroit où vous insérez. On cherche encore un petit peu d'aide. Hein, si vous dites, voilà, moi, je donne volontiers un coup de main, ou alors j'aimerais animer quelque chose avec un petit groupe de personnes, c'est possible. Il y aura de la peinture, il y aura des jeux de société, il y aura des grimages, des bulles, il y aura des balades. Donc voilà, il y aura toutes sortes de choses. Et puis, si vous avez envie d'animer quelque chose, dites-le moi simplement. Et voilà, on se réjouit de vivre ça ensemble. Le but, c'est vraiment de passer du bon temps ensemble, de voilà, continuer à nouer des liens entre nous et puis de vivre des choses autrement que ce qu'on vit le dimanche matin au culte. Mais on aura aussi une petite partie culturelle où on va... Voilà. Chanter et avoir un moment festif. Aussi pour vous dire finalement que les programmes, je devais en prendre un mais il est resté là-bas au fond, les programmes papier sont là, ils sont arrivés. Voilà, Claude en a un, donc si jamais vous pouvez vous servir à la sortie si vous avez l'habitude d'en prendre avec vous. Merci à tous ceux qui travaillent à ce programme. C'est toujours, vous faites du très bon travail et on est reconnaissant pour ça. Merci.
Merci. Voilà, je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. À l'approche du moment ultime, Jésus dit à ses disciples, « Je vous laisse ma paix, mais je ne vous donne pas comme le monde donne. » Que cette paix du Christ, au-delà de nos fragilités et à travers nos vulnérabilités nous marquent, imprègnent nos vies tout au long de cette semaine. Bon dimanche à chacun.